Radio de la Paix, il est 18h. Le journal de 18h, Paul Bénédicte Bolou.
Il est 18h, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal de ce mercredi 5 mars. Visite officielle à Abidjan ce mercredi du président ghanéen où il a rencontré son homologue ivoirien. Une rencontre qui vise à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays, notamment en matière de lutte contre la criminalité, le terrorisme à leurs frontières communes. Le carême chrétien débute aujourd'hui avec le mercredi des cendres, période de réflexion et de renouveau spirituel durant 40 jours. Les chrétiens catholiques se préparent à célébrer la résurrection du Christ en pratiquant la prière, le jeûne et la charité. En page internationale, crise éducative en RDC, plus de 2 500 écoles fermées à cause des conflits. 1 million d'enfants sont impactés, dont 330 000 privés d'éducation depuis 2025. Et puis, baisse des prix du ciment. Le gouvernement ivoirien a fixé de nouveaux tarifs 2 mois après cette décision. Respecte-t-il les nouvelles normes sur le terrain? Dans ce journal, vous suivrez le constat terrain dans un dossier d'actualité proposé par Linda Ballier. Voilà pour l'essentiel. À Abidjan, le président de la République du Ghana, John Dramani Mahama, effectue une visite d'amitié et de travail de 24 heures en Côte d'Ivoire. Au palais présidentiel à Abidjan Plateau, il a rencontré son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Ensemble, ils ont souligné l'importance des relations fraternelles entre nos deux nations. Les propos du président ivoirien Alassane Ouattara sur cette rencontre.
Monsieur le président, nous venons d'avoir un excellent entretien au cours duquel nous avons abordé des sujets d'intérêt commun, notamment dans le domaine de la défense, de la sécurité, de l'économie du cacao, dont nous sommes le premier producteur, plus de 60% de la production mondiale, des mines et de l'énergie, ainsi que les grands chantiers de la CEDEAO, tels que le corridor Abidjan-Lagos ou encore la monnaie commune, l'ECO. S'agissant de la coopération bilatérale, nous avons réaffirmé notre volonté commune de soutenir l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana et de renforcer la coopération entre le Ghana et la Côte d'Ivoire dans les domaines des mines et de l'énergie, de la lutte contre l'orpaillage illégal et de la surveillance de la qualité des eaux. Parce qu'évidemment, ces rivières qui traversent nos deux pays ont des conséquences néfastes pour les populations du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Nous nous sommes également engagés à soutenir et à œuvrer à la mise en œuvre de l'accord de partenariat stratégique Côte d'Ivoire-Ghana, un instrument privilégié de la coopération signé en 2017 à Accra.
Ce voyage à l'étranger du président ghanéen John Dramani Mahama en Côte d'Ivoire après l'élection témoigne de l'importance des liens entre les deux pays. Lors d'un point de presse commun avec le président ivoirien Alassane Ouattara, des sujets tels que le cacao, la mine et la lutte contre l'orpaillage clandestin ont été abordés. La traduction en français des propos du président ghanéen.
We know that Ghana and Côte d'Ivoire's economy.
Le Ghana et la Côte d'Ivoire sont bien entendu dans de bonnes relations. La Côte d'Ivoire a un point important dans la sous-région avec ces situations que nous connaissons d'agitation économique. La Côte d'Ivoire a pu faire une croissance économique de entre 6 et 7%. Cela est remarquable. Je pense que nous devons continuer à travailler ensemble, la Côte d'Ivoire et nous. J'ai noté, bien entendu, Monsieur le Président, le Ghana et la Côte d'Ivoire sont un même peuple. Nous voulons travailler à changer les choses. Surtout aussi, Monsieur le Président, lorsque vous parlez de l'orpaillage clandestin, j'ai bien pris note parce que cela impacte nos deux pays. Surtout qu'au Ghana, nous avons 44 réserves de forêt qui ont été touchées et surtout aussi nos réserves d'eau qui sont impactées par l'effet de l'orpaillage clandestin. Cela impacte et produit aussi des effets du changement climatique sur nos deux pays parce que le climat en Côte d'Ivoire et le climat au Ghana sont les mêmes. Monsieur le Président, je voudrais donc, à la suite de ce que je viens de dire, encourager nos relations puisque la Côte d'Ivoire et le Ghana sont impliqués dans cette zone de libre-échange qu'est la ZELECAF, dont le siège est au Ghana. Nous pensons que nous pouvons continuer à renforcer la coopération dans ce sens-là pour le bien-être de nos deux pays.
Vous venez d'entendre successivement les présidents du Ghana, John Dramani Mahama et Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Notre pays traverse une période de tensions sociopolitiques croissantes marquée par des discours belliqueux. C'est le constat alarmant dressé par la CIED, la concertation interpartie pour des élections démocratiques. Blé-Pierre Norlander, président de cette plateforme d'échange, rappelle l'importance du code de bonne conduite signé par les acteurs politiques, un engagement essentiel pour garantir des élections apaisées. Blé-Pierre Norlander est en ligne avec Soro Adams.
Les propos tenus ces derniers temps par nos amis politiques vraiment ne sont pas bons. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. On a parlé de nationalité. Bon, il y a eu beaucoup de choses qui nous rappellent vraiment un passé récent qui n'a pas été glorieux pour notre pays. La CIED est créée pour dire qu'il faut vraiment bien cadrer les discours politiques et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'agressivité, il n'y ait pas de discours de haine. Nous sommes sortis pour essayer d'interpeller les partis politiques et même interpeller les hommes de médias pour dire que aidons la Côte d'Ivoire à ne plus revivre le mauvais passé de 2010.
Et pourtant, un code de bonne conduite a été signé par les acteurs politiques de la Côte d'Ivoire.
Oui, le code de bonne conduite a été signé par les acteurs politiques de la Côte d'Ivoire. Et ces derniers temps, vous avez vu qu'il a été respecté, plus ou moins. Mais il est de notre devoir à la CIED de continuer à promouvoir ce code-là. C'est pourquoi, dès le mois de mars, nous allons encore parcourir les QG des partis politiques et aussi faire appel à nos antennes qui sont à l'intérieur de la Côte d'Ivoire pour faire les mêmes démarches, aller vers les partis politiques, les citoyens et les religieux pour leur parler de la bonne nouvelle qu'est la paix et la paix électorale.
Blé-Pierre Norlander de la CIED, la concertation interpartie pour des élections démocratiques. À l'occasion du mois de jeûne débuté le samedi dernier par la communauté musulmane, le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire, COSIM, a reçu hier mardi des dons de l'Assemblée nationale au siège de l'institution à Abidjan. Lors de cette rencontre, le président de l'Assemblée nationale, Adama Big Togo, a profité pour appeler les imams à prier pour la paix en Côte d'Ivoire, particulièrement en cette année électorale.
Notre présence ici va au-delà de l'institution. Ce sont des fidèles, ce sont des frères, ce sont des Ivoiriens qui sont venus chercher des bénédictions, qui sont venus vous solliciter pour prier pour notre pays qui va s'engager dans une voie non moins difficile. Année électorale, année des tensions, mais année des passions, parce que les tensions naissent des passions. Et vous avez donc cette responsabilité de nous apaiser, de prier pour que la sérénité nous habite tous, afin que la recherche de la paix soit au centre de toutes nos décisions et de nos avancées. C'est donc aujourd'hui une visite spirituelle qui s'inscrit donc dans la dynamique de la fraternité et de la force de nos relations.
C'était à l'instant le président de l'Assemblée nationale, Adama Big Togo. Alors que le mois de mars est marqué par le jeûne musulman, il coïncide également avec le carême chrétien, période de jeûne et de préparation spirituelle pour les chrétiens catholiques. Nous le disions au titre, le carême chrétien débute ce mercredi avec l'imposition à tous les fidèles des cendres. Et pour l'occasion, le vicaire de la paroisse Sainte Anna d'Adjamé Benjarville les invite à vivre ces 40 jours de jeûne, de prière et d'aumône de manière significative. L'abbé Kofi Isaac encourage les chrétiens catholiques à prendre des résolutions personnelles pour enrichir leur expérience spirituelle. Il a été joint par Christelle Esso.
Déjà, le temps de jeûne, c'est d'abord un temps de pénitence. Donc, si le Seigneur nous fait la grâce de commencer avec nos frères musulmans, c'est un temps fort pour nous, pour que nous tous puissions revenir vers le Seigneur, pour que nous puissions nous réconcilier d'abord avec le Seigneur, avec nos frères et soeurs musulmans, tous puissions nous réconcilier sincèrement, pour que, en sortie de ce temps de carême, nous puissions vraiment vivre dans la paix, dans l'amour, dans la joie, dans la gaieté, parce que nous sommes tous des frères. Parce que le Seigneur nous donne l'occasion cette année de jeûner ensemble avec eux. C'est pour que nous tous puissions vraiment se mettre en cause et voir ce qui ne va pas, et puis corriger ce qui ne va pas. Et puis, au sortie de l'âme, nous puissions être vraiment les enfants de Dieu. Dieu uni dans la paix, dans l'amour, dans la joie. Le temps de carême des chrétiens, c'est les trois P. Les trois P, c'est quoi? C'est d'abord la pénitence, la prière et le partage. Donc, comment on doit faire pour que je puisse partager avec les autres? Comment on doit faire pour que je puisse quitter mes péchés pour revenir vers le Seigneur? Et aussi revenir vers mes frères et sœurs hein, qui ne parlent pas. Peut-être que tu peux avoir des soucis avec les musulmans, mais le temps est venu, le temps est favorable. C'est à nous-mêmes d'aller vers eux. On peut se retrouver dans les quartiers, dans les cités, se retrouver pour dire, ah, aujourd'hui, on se retrouve chez telle personne pour rendre nos jeunes, c'est important. On voit là l'unité, l'amour du prochain. Nous, on peut prier pour nos pays pendant 40 jours. Prier aussi pour nos dirigeants, prier pour tout un chacun de nous, pour que ce temps d'élection soit pour un temps de réconciliation, un temps de paix.
L'abbé Kofi Isaac, vicaire à la paroisse Sainte-Anne d'Adjamé Benjerville, était en ligne avec Christelle Yesso. Hier, dans la commune du Plateau, l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire et le consistoire des évangéliques de Côte d'Ivoire ont uni leurs voix pour adresser un appel urgent aux députés. Ils les exhortent à ne pas voter l'ordonnance concernant l'organisation de la société civile. Leur objectif est de favoriser l'ouverture de discussions constructives sur cette question. Jean-Mélène Bitti nous en dit plus.
Le révérend docteur Noël Nguessan, porte-parole des églises impliquées, a exprimé leur préoccupation face à l'ordonnance sur la société civile jugée liberticide.
L'église méthodiste de Côte d'Ivoire, la fédération évangélique de Côte d'Ivoire et le consistoire des protestants évangéliques entendent interpeller surtout les élus de la nation sur les risques et les menaces que cette ordonnance fait peser sur la liberté religieuse.
Selon lui, cette ordonnance ne respecte en rien les garanties accordées par la Constitution.
L'ordonnance s'agissant de la liberté religieuse n'a respecté ni l'esprit ni la lettre des garanties données par les instruments internationaux et la Constitution ivoirienne.
Il appelle donc les députés ivoiriens à ne pas voter en faveur de cette ordonnance et à promouvoir des discussions constructives afin de trouver un consensus.
L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire et le consistoire des protestants évangéliques invitent les élus représentants du peuple et chargé de défendre ses intérêts à s'abstenir en l'état de ratifier l'ordonnance en vue de rendre possible des discussions entre les pouvoirs publics et les communautés religieuses.
Par ailleurs, il est important de noter que cette ordonnance proscrit toute nouvelle construction d'un lieu de culte à moins d'un kilomètre d'un autre lieu de culte d'obédience ou de courant différent, une mesure que les évangélistes ivoiriens dénoncent fermement.
C'est aussi l'actualité, on en parle dans ce journal. Dans le but d'améliorer le secteur du transport intérieur en Côte d'Ivoire, l'État a récemment créé l'autorité de régulation du transport intérieur. Pour mieux faire connaître cette nouvelle institution, Oumar Sako, le directeur général des transports terrestres et de la circulation, était l'invité hier mardi de la tribune hebdomadaire du CICG intitulée « Tout savoir ». Linda Ballier, présente à cet événement, nous livre son compte-rendu.
Dans le but de réguler le système du transport, le gouvernement ivoirien a adopté depuis 2014 la loi d'orientation du transport intérieur qui a vu la création de l'AMUGA et l'autorité de régulation du transport intérieur, ARTI. Et cette régulation, selon Oumar Sako, directeur général des transports terrestres et de la circulation, consiste en plusieurs points dont
contribuer à l'élaboration de la réglementation en matière de transport intérieur, veiller à la bonne application par les acteurs publics ou privés de la réglementation en matière de transport intérieur, encourager la collaboration entre les acteurs du secteur du transport intérieur, contrôler par tous les moyens légaux, notamment par la voie électronique, de la cohérence du processus de visite technique automobile obligatoire.
Et pour atteindre ces objectifs, l'ARTI a été doté de 3 pouvoirs consultatifs, d'injonction et de sanction. Parlons de la stratégie de sécurité routière. Les différents décrets et mesures pour une réduction des accidents de la voie publique portent leurs fruits, puisque, signale Oumar Sako, fin 2024, le taux de décès a baissé de 24%.
2021, on a constaté qu'on avait atteint un pic qui était de 1600 morts. En fin 2024, on a eu une baisse de 24%. On a reçu une bonne tendance. Il faut continuer à sensibiliser. Aujourd'hui, nous sommes en train de passer à une autre phase, 50% de sensibilisation et 50% de répression.
Notons qu'un plan de circulation porté par l'AMUGA sera bientôt dévoilé pour canaliser les motos, toujours selon le directeur général des transports terrestres et de la circulation, Oumar Sako.
La sous-préfecture de Ngatakro a récemment été le théâtre d'un événement initié par le député Akoto Olivier. Un programme participatif a été lancé visant à identifier les projets prioritaires à réaliser dans sa circonscription électorale. Ce rassemblement qui a réuni des leaders communautaires a pour objectif de promouvoir le développement local et de renforcer la cohésion sociale. En s'attaquant aux inégalités dans le choix des projets, cette initiative aspire à améliorer le bien-être des populations rurales. Le rendu de notre correspondant régional de l'IFU, François Cras.
Le député Akoto Olivier revient sur la motivation de son initiative.
En tant que premier défenseur des intérêts de mes populations d'Akro-Ngatakro, le constat est que souvent, on est surpris de voir des projets qui débarquent dans les villages en ne tenant pas compte des préoccupations et des priorités des populations. Donc, il est important pour nous de faire asseoir la chefferie, la mutuelle, les jeunes et les femmes pour les écouter et cerner leurs besoins et les prioriser. Soumettre ce livre blanc aux autorités compétentes.
Les besoins urgents définis par les participants diffèrent selon la localité. À Akakro, l'école est au centre des préoccupations. Koffi Abutu Benji, notable, en parle.
Nous avons trois classes au précaire, c'est nous-mêmes qui avons construit. On n'a rien.
La disponibilité de l'eau à Ngatakro est un calvaire pour les femmes, selon Guessan Léa.
On est obligé d'aller dans des campements pour avoir l'eau de puits. Très, très, très compliqué pour nous.
Pour répondre à ces besoins immédiats, l'élu insiste sur le rôle des documents d'état civil. Akoto Olivier.
Aujourd'hui, pour pouvoir être développé, il faut pouvoir exister. L'existence doit être légale. Et malheureusement, aujourd'hui, sur notre pays, on politise tout. C'est pas normal. Il faut qu'on puisse dénombrer 500 habitants. Les papiers, mais tout part de l'état civil, de l'identification des populations à travers des certes dates de naissance, certificats de nationalité et carte nationale.
En marge de cette activité de proximité, des certificats de nationalité qui attendaient d'être retirés par leurs requérants à la sous-préfecture de Daokro ont été distribués. François Kra, Ngatakro, Radio de la Paix.
La situation éducative en République démocratique du Congo est alarmante. Plus de 2500 écoles ont été touchées par les conflits liés au groupe armé M23, entraînant la fermeture de 2594 établissements, dont les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Cette crise a impacté plus d'un million d'enfants, dont 330 000 ont été privés d'éducation depuis le début de l'année 2025. Les violences persistantes ont provoqué un déplacement massif de la population, rendant difficile la réouverture des écoles. Face à cette situation catastrophique, le ministère congolais de l'Éducation a mis en place des mesures d'urgence, incluant un programme d'éducation à distance et la distribution de kits scolaires aux élèves vulnérables. Les appels à l'aide humanitaire se multiplient pour soutenir les enfants et leurs familles touchées par ce conflit prolongé. Et puis face au danger que représente la suspension de l'aide militaire américaine, le président ukrainien estime n'avoir d'autre choix hier que d'envoyer des signaux d'apaisement à Donald Trump. Dans un texte publié en fin d'après-midi sur le réseau social X, Volodymyr Zelensky a évoqué deux premières étapes pour rapidement mettre fin à la guerre. Celle-ci consisterait en l'instauration d'une trêve dans la mer Noire et dans le ciel avec interdiction de missiles, des drones à longue portée et des bombardements sur les infrastructures énergétiques et civiles, à condition que la Fédération de Russie fasse de même. L'accord devrait également inclure la libération des prisonniers de guerre russes et ukrainiens, tout cela dans l'espoir de travailler avec les États-Unis pour parvenir à un accord final solide. Place au dossier d'actualité de ce mercredi. Le gouvernement ivoirien a récemment annoncé une baisse des prix du ciment, fixant le prix maximum de la tonne à 78 000 francs CFA pour la qualité 42,5 et à 72 000 francs CFA pour la 32,5 CPJ. Deux mois après cette décision, les vendeurs et revendeurs respectent-ils ces nouveaux tarifs? Nous faisons le point sur le terrain avec Linda Balier.
Ah bon, nous on a constaté que la prix a été, ça a été augmenté un peu. Puisque avant on prenait la tonne à, comment appelle, à 88 000, mais maintenant on prend à 92 000. Normalement s'il y avait une diminution, on allait sentir, mais ça a plus augmenté. Actuellement, en tout cas le gouvernement a dit, mais nous on n'a rien senti sur le terrain.
En effet, sur le terrain, la décision gouvernementale au niveau des revendeurs ou détaillants ne se fait pas ressentir, comme vient de le signifier Doumbia Zoumana, chef de personnel d'une briqueterie à Cocody-Engré. Un constat partagé par cet autre détaillant qui semblait ne pas être informé de cette mesure.
42,5 là, nous on paye ça à 90 000. Il n'y a pas un seul prix quoi. Mais 42,5 là, on n'est pas descendu encore. 90 000, des fois 92 000, ça dépend. Sinon, pour dire que bon, l'autre nouvelle prix là, on n'est pas au courant d'abord. C'est à toi maintenant que moi j'ai appris, sinon je n'avais même pas entendu. Nous, les détails là, en tout cas, le prix n'est pas encore baissé.
Outre ces maillons de la chaîne, nous nous sommes tournés vers des particuliers pour qui les prix pratiqués ne sont pas si différents. Monsieur Raphaël, pour son duplex qu'il rénove en ce moment, achète le ciment qualité 32,5 à 87 000 francs la tonne.
La tonne de ciment, nous l'achetons à 87 000 avec le transport. Ce ciment que nous achetons, c'est du ciment 32,5. Il y a les vendeurs là, ou quand j'appelle, ils me livrent là.
Cependant, qu'est-ce qui expliquerait cette hausse au niveau des revendeurs ou détaillants? Le chef de personnel de la briqueterie Doumbia Zoumana tente de l'expliquer.
Plus sûrement, ils ont dit non, il y a problème, il y a rupture de stock, il y a un souci. Ils ont augmenté à 90 000. Mais actuellement, si tu vas, même ce que tu trouves, on te parle de 100 000 la tonne. Bélé actuellement, les super briques, ça va en-delà de 100, 105 000 la tonne. Franchement, c'est dû.
Si au détail, les prix sont très évolutifs, Hubert Minougou, grossiste qui s'approvisionne directement à l'usine, confirme cependant le respect des coûts de vente à la sortie d'usine décidés par le gouvernement.
En tout cas, nous, on vend grossi et on vend en détail aussi, parce qu'on a des magasins. Voilà. Dans le camion, on vend en grossi à 85 000. Et à l'usine, le prix de sortie, c'est à 78 000 exactement. C'est pour le 42,5.
Maintenant, et le 32,5?
Bon, moi, je ne sache pas 32,5 parce que je n'ai pas de client de ça. Je n'ai pas cette information-là.
Vous l'aurez compris, les nouveaux prix de vente à la sortie d'usine du ciment 42,5 fixés à 78 000 francs et 72 000 francs pour la 32,5 sont effectivement appliqués, seulement que les prix au détail sont très élevés.
Merci à vous Linda Ballier pour ce reportage. Et c'est ici que se referme le journal, le rappel de ce qui en a fait l'essentiel. Visite officielle à Abidjan ce mercredi du président ghanéen où il a échangé avec son homologue ivoirien, une rencontre qui vise à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays, notamment en matière de lutte contre la criminalité et le terrorisme à leurs frontières communes. Le carême chrétien débute aujourd'hui avec le mercredi décembre, période de réflexion et de renouveau spirituel. Durant 40 jours, les chrétiens catholiques se préparent à célébrer la résurrection du Christ en pratiquant la prière, le jeûne et la charité. C'est ici que se referme le journal. L'information sera de retour demain jeudi sur les antennes de Radio de la Paix. Merci et bonsoir.
Radio de la Paix, l'info juste et sans passion.
Gathered in his name, the Most High is in the midst. Let Jah be praised continually.